Bonsoir, comment allez-vous ? Il y a des domaines où l'humanité progresse, greffe du cœur, ordinateur, téléphone portable, avion, fusée, tout ça. Qui aurait pu imaginer ça il n'y a même pas 100 ans ? Et puis d'autres où on régresse. Qui aurait pu imaginer, il n'y a même pas 100 ans non plus, qu'un homme pourrait en croiser un autre tous les matins sans lui dire ne serait-ce que « bonjour ». Avez-vous remarqué qu'actuellement, nous marchons de plus en plus avec des bâtons ? Oui, même en ville. Ça présente beaucoup d'avantages, surtout pour les vendeurs de bâtons. Et un inconvénient, celui d'occuper les mains. L'homme, en se redressant et en ne marchant plus que sur ses jambes, s'est libéré les mains, avec lesquelles il a pu du coup faire un tas de choses, la cuisine, tricoter. Et avec les bâtons, eh bien, il n'a plus de mains disponibles. Et à nouveau quatre pattes. Je pense que nous amorçons la redescente. Les bâtons à la longue prolongeront les bras jusqu'au sol, sauf qu'au bout des bâtons, il n'y a ni doigts ni doigts de pied.
Bonsoir, je m'appelle Laureline, j'ai 13 ans et on m'a dit que nos descendants n'auraient plus de petits orteils ni des dents de derrière pour mâcher. Est-ce que c'est vrai ?
Pascal Pic, paléo-anthropologue au Collège de France.
Bah oui, il y a une grande idée dans l'évolution qui laisse entendre que si on n'utilise plus certains organes ou certaines fonctions, ouais, ou certaines structures, pardon pour le nom, donc par exemple l'os du petit orteil, c'est une structure, la troisième molaire, c'est une structure anatomique, et si on l'utilise plus, ça disparaît.
C'est vrai ?
Alors là, c'est vrai en partie. Mais on est capable de voir des grandes tendances dans l'évolution de notre corps, et il est indéniable que depuis 2 millions d'années, depuis que l'homme marche
debout
de cette manière tout à fait formidable. Alors, marcher debout, il y en a eu d'autres formes de bipédie, hein. Mais par exemple, Lucie, qui marchait debout, elle avait par exemple de très longs orteils. Et donc, elle avait un pied comme la main, comme notre main,
ouais,
avec le premier gros orteil qui s'écartait pour attraper les branches comme nos mains.
Ah.
Et donc, nous, depuis 2 millions d'années, nous avons un pied avec cette courbure du pied.
Ouais.
Donc, on a une cheville qui est très puissante. On a le milieu du pied, là où c'est courbé, qui est très puissant. Et nos orteils ont régressé. Et donc, tout ça régresse. Et on a cette tendance qui est bien, bien claire depuis pas mal de temps. Alors, tout de même, les petits orteils, on en a depuis 2 millions d'années. Donc, ça ne va pas disparaître très vite. Donc, je rassure quand même Laureline. Donc, tu peux continuer à t'acheter de bonnes chaussures. Maintenant, la troisième molaire. Alors là, on fait des grosses bêtises. Parce que, en effet, nous ne mastiquons plus. Moi, quand j'étais petit, j'avais des bâtons de réglisse, fallait mastiquer. Et là, du coup, quand on mastique, eh bien, on exerce des forces dans la mâchoire. Et comme on exerce des forces dans la mâchoire, eh bien, ça consolide les dents et surtout l'os qui est autour. Donc, du coup, ça va pousser les dents vers l'avant. Et quand la troisième molaire arrive, celle du fond, dite de sagesse, bah, elle a toute sa place. Mais comme on mastique plus, eh bien, les dents ne sont plus poussées vers l'avant pendant l'enfance. Et quand la troisième molaire arrive, elle dit au secours, j'ai plus de place. Et là, ça fait bobo et on a beaucoup d'ennuis. Donc, il est très clair que depuis 3 millions d'années, ou 2 millions d'années aussi, eh bien, on a dans la lignée humaine une régression de la taille des dents qui commence par l'arrière. Donc, il est tout à fait clair que les troisièmes molaires disparaissent, mais, depuis que nous avons ces régimes alimentaires récents, avec ces cuissons, on ne mastique plus, eh bien, nous avons considérablement fragilisé nos arcades dentaires. Et aujourd'hui, malheureusement, en une génération, c'est rapide, hein, les enfants vont de plus en plus chez l'orthodontiste, il y a de plus en plus de désordre. Et il est très clair qu'actuellement, on peut s'inquiéter de l'état de santé des générations actuelles et futures en ce qui concerne leurs dents et leur capacité à mastiquer. Donc, faut continuer à mastiquer, parce que là, c'est un bon exemple, vous voyez, on n'exerce plus une fonction. Donc, du coup, vous avez des désordres dans les structures. Donc, il faut continuer à mastiquer.
Manger des carottes crues, des trucs
manger
durs.
Manger des carottes crues, il faut continuer à marcher, ça ira mieux pour vos petits orteils. Donc, là, l'évolution nous a légué des choses formidables. On peut courir, on peut marcher, on peut mastiquer des bonnes choses. Eh bien, les enfants, si vous voulez être en bonne santé et que tout ça se maintienne, petit orteil ou troisième molaire, continuez à marcher et continuez à mastiquer.
Le métier de Pascal Pic en 18 lettres. Paléo-anthropologue. Pascal Pic est édité chez Odile Jacob. Son dernier livre s'appelle « Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?» Ah, vous y avez sûrement joué quand vous étiez petit, vos parents aussi, et vos enfants probablement y joueront encore, tellement c'est bien.
Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et je voudrais savoir qui a inventé les Lego.
Tu rigoles et je te comprends Adèle, puisque les Legos sont réjouissants. Nous proposons ta question à Émilie Carl, qui est responsable communication de Lego France. Qui a inventé les Legos ? Demande Adèle.
Alors Adèle, c'est une très bonne question. Et qui a inventé les Legos ? Alors pour ça, laisse-moi te raconter une longue histoire familiale.
Ah.
Il était une fois un charpentier au centre du Danemark, dans un petit village qui s'appelle Billund. Car oui, Adèle, c'est un charpentier qui a inventé les Legos. Donc ce charpentier qui s'appelle Ole Kirk Christiansen. C'est pas évident à prononcer oui. Quand on parle pas danois. A eu l'idée, en fait, il souffrait, comme beaucoup, de la crise des années 30. Et a décidé d'utiliser ses chutes de bois pour créer des jouets. Donc les premiers jouets Lego étaient des jouets en bois.
D'accord.
Le tout premier était même un canard en bois. Alors après, il a commencé à développer son activité et il a rencontré des grosses difficultés. Notamment, son atelier a brûlé deux fois. Donc il a dû, à deux reprises, reconstruire son entrepôt, refaire son stock de zéro. Donc voilà, une épopée avec beaucoup d'obstacles.
Donc si je comprends bien Émilie Carl, c'était un atelier de jouets.
Tout à fait. L'aventure familiale a continué. Et au cours des années 40, avec son fils Gottfried et l'arrivée du plastique à cette période, il a inventé la brique Lego. Pas tout à fait comme on la connaît aujourd'hui, Mais en tout cas ce système d'emboîtement des briques pour créer ce qu'on a envie de créer. Le problème, c'est qu'à l'époque, le système d'emboîtement n'était pas parfait. Et donc, on créait quelque chose, mais on ne pouvait pas le soulever ou on ne pouvait pas le déplacer. La construction n'était pas assez solide.
Ah oui, dès qu'on y touchait, patatras.
Exactement. On ne pouvait pas, par exemple, construire un avion et le prendre dans ses mains pour le faire voler. Donc, Gottfried et son papa Ole ont travaillé à un système de construction beaucoup plus solide en créant les tenons. Alors, les tenons, c'est les petits picots, Adèle, que tu vois sur les briques et qui permettent d'emboîter parfaitement les briques, de faire une construction solide et de pouvoir jouer facilement avec. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, pour les initiés, le clutch power, c'est-à-dire cette capacité à s'emboîter parfaitement et être solide et en même temps à pouvoir se désemboîter facilement pour pouvoir recréer avec les mêmes briques tout ce qu'on souhaite.
Qu'est-ce que ça veut dire en fait, Émilie Carl, Lego ?
Alors, Lego, c'est le nom qu'a choisi le créateur en 1934 en contractant deux mots danois, lek, got, qui veulent dire bien joué.
Ah ouais.
Mais alors, ce qu'il ne savait pas à l'époque, pour l'anecdote, c'est que Lego en latin veut aussi dire j'assemble. C'est assez rigolo pour un jeu de construction.
C'est une synchronicité. Merci pour ces informations sur ces Legos. Alors, je ne devrais pas vous dire ça parce que ça ne me rajeunit pas, mais nous, quand nous étions petits, nous avions les Legos et quelque chose d'un peu plus compliqué, c'était les garçons qui avaient ça, pas les filles, mais c'était tellement bien, mais quand même assez difficile, c'était les mécanos et c'était pas en plastique, c'était en métal. Tout à l'heure, dans les petits bateaux, nous allons parler de la pomme d'Apple en couleur ou sans couleur et pourquoi. Avec Geneviève Carbone, nous verrons ce qu'aiment manger les loups et Mathieu Davigna, l'historien Mathieu Davigna, nous emmènera avec le nôtre dans les jardins de Versailles.
Que je me mouille, c'est ma dernière surprise partie. Je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Come on.
Gabi, oh Gabi, c'est peut-être Alain Bachoun.
Les petits bateaux sur France Inter.
Connaissez-vous le parc du château de Versailles? C'est un parc absolument magnifique, magnifique dans son aspect connu et puis magnifique et charmant et mystérieux pour les parties un petit peu plus éloignées du centre. Malheureusement, maintenant, le parc de Versailles n'est plus gratuit. Le milieu est gratuit, mais les parties mystérieuses et charmantes ne le sont plus. Elles sont même payantes et même fort chères. C'est dommage, mais ça reste beau.
Allô, bonjour, je m'appelle Paola et je me demande, est-ce que c'est le nôtre qui a créé une nouvelle mode à Versailles ? Pour les jardins, au revoir, merci beaucoup de me répondre.
Est-ce que c'est le nôtre qui a créé une nouvelle mode à Versailles pour les jardins ? Mathieu Davigna, historien, directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles.
Le nôtre, indéniablement, crée un nouveau style pour les jardins. Alors, il ne les crée pas forcément à Versailles. Il faut savoir qu'il a déjà travaillé à Vaux-le-Vicomte et on a l'impression que Louis XIV arrache le nôtre à Vaux-le-Vicomte comme s'il ne le connaissait pas et qu'il le découvrait avec son ministre des Finances, Fouquet, qui sera disgracié après cette grande fête qui a eu lieu en 1661 à Vaux-le-Vicomte. Le nôtre, c'est quelqu'un qui travaille déjà pour le roi depuis 1637. Il était jardinier des Tuileries à Paris.
Ah, oui, donc il n'a pas été dégoté.
Il n'a pas été dégoté, c'est-à-dire que évidemment Louis XIV est très impressionné par Vaux-le-Vicomte où Fouquet a rassemblé les trois le entre guillemets, c'est-à-dire Charles Le Brun, Louis Le Vau et André Le Nôtre. Mais ce sont des hommes qui sont déjà des hommes du roi. Et peut-être que Fouquet les avait réunis pour créer ce magnifique château. Néanmoins, ils étaient connus de Louis XIV. Et le nôtre, c'est vrai, il va créer ce qu'on appellera plus tard, par opposition au jardin anglais, le jardin français. Et le jardin français, qu'est-ce que c'est ? C'est un jardin régulier avec ses grandes perspectives. C'est très important de comprendre que le jardin français, c'est cette idée de réflexion avec le jeu de miroir avec le château et les pièces d'eau, où tout se reflète l'un sur l'autre, où il y a des effets de surprise. On a l'impression que le jardin français est un petit peu ennuyeux quand on dit ça, c'est jardin régulier, etc. Mais il faut savoir que le jardin français est fait pour être vu du premier étage du château. Et lorsqu'on regarde effectivement, quand on est depuis la Galerie des Glaces, on ne voit pas grand-chose. On voit une sorte de forêt broussailleuse et on ne voit pas les bosquets. Et le principe, c'est de se promener et d'un seul coup, vous avez une entrée à droite, à gauche, et puis vous découvrez un bosquet. Et puis vous voyez jaillir des fontaines. Donc, il y a quand même une idée de surprise permanente et de jeu sur les perspectives. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de nivellement. Lorsque vous descendez, vous ne voyez plus le château. Mais lorsque vous remontez légèrement, vous apercevez le château et qui se découvre progressivement. Donc, le nôtre, c'est ce génie français, qui est un architecte des jardins, un paysagiste. C'est quelqu'un qui maîtrise aussi bien évidemment l'art du jardin, mais l'art de l'urbanisme et de l'architecture. Donc on a ici un véritable génie présent avec Louis XIV et qui deviendra même un ami de Louis XIV. On a cette image de deux hommes se promenant dans les jardins et devisant, et Louis XIV poussant lui-même la petite chaise roulante de Le Nôtre à la fin de sa vie qui ne peut plus marcher.
Mathieu Davigna a écrit « Au service du roi » dans les coulisses de Versailles. Et le dernier, « Versailles, enquête historique », ces deux livres sont chez Talendier. À partir du 17 juin et jusqu'au 16 septembre, tous les samedis soirs, il y a feux d'artifice et grandes eaux nocturnes dans le parc de Versailles. Et ce sera à 20h30. Il y a quelque chose aussi dans le parc de Versailles dont je ne vous ai pas parlé. Ce sont des espèces de grands fossés dans lesquels il ne faut pas tomber. Mais enfin, a priori, c'est bien organisé. Et il paraît que ça servait à se protéger des loups.
Bonjour, je m'appelle Sébastien. J'ai 13 ans et j'aimerais savoir ce que préfère le loup comme nourriture s'il a le choix. Merci.
Ah, je suis contente que tu poses cette question, Sébastien, je me la pose aussi. Geneviève Carbonne, vous êtes ethnozoologue.
Bonsoir Sébastien. En fait, le loup, il a le choix sans avoir le choix. Il n'a pas le choix parce que c'est un prédateur et c'est un carnivore. Donc il n'a pas le choix de se priver volontairement de viande. C'est-à-dire, l'être humain peut faire le choix de régime végétarien ou végétalien, le loup non. Il a besoin pour survivre d'avoir un apport alimentaire à base de viande conséquent, pas forcément quotidien, mais régulier en tout cas. À ce régime alimentaire de départ, qui est forcément carnivore, qui peut lui être apporté par des très gros mammifères, je pense aux cerfs, aux sangliers, à d'autres endroits ça va être de l'élan, il va rajouter des petites proies, par exemple du lièvre, des oiseaux, des mulots parfois. Et dans certains endroits, on s'aperçoit qu'ils ont des préférences gustatives étonnantes. On en voit rajouter à leur régime de base des céréales, des fruits, du raisin à certains endroits. Donc en fait, c'est un peu éclectique. On ne sait pas trop pourquoi certains se mettent à manger des choses qui sont relativement éloignées de ce qu'ils mangent d'habitude.
C'est pas pour se soigner ? Si c'est des fruits, c'est pas pour avoir, je sais pourquoi, des vitamines, un transit intestinal différent.
Je ne sais pas s'ils ont ces compétences-là. Toujours est-il que c'est dans certains endroits, sur certaines meutes, il y a un apport alimentaire important qui n'est pas lié à la viande. Donc important, toute proportion gardée. Et on a des loups pêcheurs. C'est-à-dire sur la côte ouest des États-Unis, du Canada, donc en Colombie-Britannique, il y a des loups pêcheurs.
Mais donc, qui vont dans la mer ?
En fait, ils vont être sur les côtes en période de remontée des saumons. Ils vont faire un petit peu comme les ours. Ils vont se nourrir de ces masses de saumons qui remontent les rivières pour se reproduire et puis mourir. Et ils en attrapent au passage. Donc ils pêchent.
Avec leur gueule, plouf, ils plongent
la tête. Oui, c'est ça. Ouais. C'est très joli. Ça fait vraiment de très beaux comportements à voir. Ils sont tout mouillés. Mais bon, voilà, ils se régalent de poissons. Ils en mangent copieusement.
Safou, c'était Amadou et Mariam. Si au Scrabble vous avez 3 M, ben voilà. Vous pouvez nous téléphoner en faisant le 01 56 40 43 57.
Bonjour, j'ai 13 ans, je m'appelle Emma. Je voudrais savoir pourquoi Steve Jobs a appelé son entreprise Apple, qui signifie pomme, alors qu'il faisait des ordinateurs.
Bonsoir Emma, nous n'avons pas proposé cette question à un spécialiste de l'informatique, bien que Sylvie Brunel sache faire marcher un ordinateur, mais vous avez écrit Sylvie Brunel, Croquer la pomme, édité chez Jean-Claude Lattès. Vous êtes écrivain et géographe et professeur à Paris-Sorbonne. Alors cette pomme de Steve Jobs ?
Alors il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Steve Jobs a appelé son entreprise Apple. D'abord il y a une raison très simple, c'est que dans l'alphabet, c'est le nom qui vient en premier, et ça permettait de passer avant les concurrents. Mais il y avait aussi le fait que Steve Jobs mangeait énormément de pommes. Il avait travaillé dans les vergers de l'Ontario. Il était très attaché à la pomme. Mais pour mieux comprendre pourquoi il a choisi une pomme, il faut regarder le logo. Vous savez, le signe qui représente Apple dans le monde entier. C'est une pomme croquée. Et quand la firme Apple a été créée dans les années 70, cette pomme croquée était aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi ? Parce que nous pensons que Steve Jobs a voulu rendre hommage à l'inventeur de l'ordinateur qui s'appelait Alan Turing, qui a permis pendant la guerre de sauver les Alliés en décodant le code que les nazis utilisaient pour communiquer entre eux. Donc Alan Turing a rendu un service considérable à l'humanité.
En plus, il a eu un destin assez triste.
Et il a eu un destin triste parce que comme il était homosexuel et que c'était interdit dans l'Angleterre d'après-guerre, il a été condamné à la castration chimique. Et il s'est suicidé en croquant dans une pomme Macintosh, qui est une pomme extrêmement répandue aux États-Unis, empoisonnée au cyanure. Et nous pensons que Steve Jobs a voulu rendre hommage d'abord à Alan Turing et à tous ces services qu'il avait rendus à la communauté informatique, mais plus globalement à l'humanité.
C'est une belle histoire.
C'est une histoire triste, mais c'est une très belle histoire. Et alors, l'arc-en-ciel a disparu du logo Apple.
On s'en souvient, hein, les gens de ma génération s'en souviennent bien. Hein.
Très bien, oui, les premiers Macintosh. Vous vous souvenez, les premiers ordinateurs Apple s'appelaient les Macintosh, justement.
C'est un nom de pomme, Macintosh.
Oui, ce qui corrobore l'hommage à Alan Turing. Et puis, quand Apple, la firme Apple a voulu conquérir la Chine et la Russie, où l'homosexualité reste un délit, il a enlevé l'arc-en-ciel, la couleur arc-en-ciel de son logo. Maintenant, c'est un logo monochrome.
Ouais. Mac, c'est un nom écossais, non ?
Macintosh. Alors, oui, parce que les pommes du monde entier ont toutes des berceaux qui sont fabuleux. La reine des rainettes, on dit du Canada, mais les Français, les pommiculteurs français disent non, c'est nous qui l'avons envoyé au Canada. La Pink Lady vient d'Australie. La Granny Smith aussi, la pomme de la grand-mère, la pomme verte, la Granny Smith. Vous voyez donc, chaque pomme a son histoire, et toutes ces histoires sont toujours fabuleuses, comme la pomme d'api. La pomme d'api, c'est une chanson aujourd'hui.
Pomme de renette et pomme d'api, d'api.
Alors on dit tapis souvent, mais c'est d'api, hein, vous savez.
Ah bon, non, je savais pas du tout.
Ah oui, les enfants maintenant disent tapis gris, tapis rouge, mais c'est d'api gris.
Pomme d'api.
Et la pomme d'api, c'est une pomme bicolore qui est très jolie, mais qui n'est pas bonne du tout au goût, et c'est pour ça qu'on ne la commercialise plus, sauf pour la décoration.
Merci Sylvie Brunel. Vous pouvez retrouver la belle et triste histoire de Steve Jobs dans le beau film de Morten Tildum, sorti en 2014, Imitation Game. N'oubliez pas de venir faire un tour sur notre site. N'oubliez pas de podcaster cette émission et de la partager avec qui vous voulez. Merci à Pauline Laverdure, à Marjorie Devoucou, à Eliane Gérard, à Marie-Claire Matout et à Jean-Baptiste Audibert. Ce soir, nous nous retrouverons à 22h pour État d'esprit. La Québécoise Nicole Bordelot, quel joli nom, viendra nous parler de la vie, de ce qu'il y a de beau dans la vie, même si parfois elle est difficile. Est-ce que je vous ai tout dit, ma foi ? Oui. Je n'ai plus qu'à vous laisser avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup. Non, j'ai oublié de vous dire que dimanche prochain, nous ne serons pas là, mais nous reviendrons le dimanche suivant.